Merci beaucoup. Et je passe tout de suite la parole à Dimitra Colonna.
Merci.
Qui est donc psychanalyste de l'école. Elle est analyste praticien à Paris et qui va nous parler de quelle politique après la fin d'une analyse.
Merci. La conscience et la politique. Expression extraite du séminaire La logique du fantasme peut avoir plusieurs entrées possibles pour l'aborder. Celle que j'ai choisie consiste à la lire comme une politique de l'inconscient, c'est-à-dire l'inconscient pris comme une orientation, et ce, dans un double sens. Tout d'abord, orientation de l'analyste dans la direction de la cure, car l'inconscient, c'est la politique de l'analyste. Pourrait être autrement, étant donné que la découverte même de la psychanalyse par Freud s'est fondée sur la croyance de l'existence de l'inconscient. Mais aussi, orientation pour un sujet qui, guidé, orienté par la boussole de son inconscient, il n'a pas toujours l'impression de trouver le nord. Nous ne pouvons pas penser l'inconscient sans le lier aux symptômes. Freud est arrivé à l'inconscient à partir des symptômes des hystériques. Et avec l'enseignement de Lacan, nous ne pouvons pas penser les symptômes sans les lier à la jouissance. Certes, l'inconscient ne se réduit pas aux symptômes, qui est une formation de l'inconscient, mais pas n'importe laquelle. Le fait que les symptômes soient liés à la répétition les distingue, il me semble, des autres formations de l'inconscient, qui, bien que fugitifs, des éclairs, ne manquent pas d'indiquer la politique du sujet, comme Michaela a très habilement développé la dernière fois à partir du vice. Les symptômes liés à la répétition ont une autre temporalité, une autre constance. Est-ce que sans l'insistance de la répétition, les sujets seraient dérangés par leurs symptômes, voudraient s'en débarrasser et seraient poussés à demander une analyse ou une thérapie quelconque? Parler de la répétition ne serait pas sans lien avec la jouissance, puisque la répétition, dit Lacan, est fondée sur un retour de jouissance. Si en suivant Lacan, nous définissons les symptômes comme quelque chose qui avant tout ne cesse pas de s'écrire du réel, ne serait-ce pas ce qui ne cesse pas qui pousserait le sujet à vouloir le faire cesser? Ainsi, le devenir des symptômes dans une analyse, les traitements que l'analyste lui réserve et son enjeu quant à la fin de la cure, notamment avec l'avancée de Lacan d'une fin par identification aux symptômes, mettent les symptômes au cœur de la politique de l'inconscient, que je propose de décliner selon trois axes: les symptômes au cœur de la politique du sujet, de l'analyste, et puis de l'école dans laquelle ce dernier peut penser l'expérience de l'inconscient et de sa politique. Plus qu'un travail achevé, il s'agit vraiment d'un questionnement encore en chantier. Donc cette première partie, qui concerne le sujet hors analyse, je l'ai appelée « Les symptômes au cœur d'une politique sans sujet ». En paraphrasant Lacan, pour souligner la dimension d'étrangeté qu'il y a entre un sujet et ses symptômes en dehors du dispositif de l'analyse. Si Freud a découvert la psychanalyse, il n'a pas découvert l'inconscient, qui était là bien avant lui, destin du parler oblige. Et pourtant, l'inconscient n'existe pas en dehors du discours psychanalytique, dans le sens qu'un sujet, en dehors de l'analyse, ne peut pas tirer au clair l'inconscient dont il est sujet, comme dit Lacan. D'ailleurs, nous pourrions se demander si une politique de l'inconscient peut exister hors analyse, comme il sous-entend mon intitulé. Comme mon intitulé, parce que j'ai appelé pour ce intitulé, c'est mon accent. Les effets de son inconscient sur lui, un sujet, peut sans doute les ressentir à travers ses impasses. Mais hors analyse, il ne peut pas les repérer en tant que tel. Ce qui ne va pas, il n'est pas pensé comme un symptôme, comme quelque chose de conditionné, et encore moins de son fait. Quand il fait un mauvais rêve, il peut lui tourner le dos et continuer à dormir. Le sujet alors peut tourner son dos à l'inconscient, peut l'ignorer, rêver qu'il existe, mais en refusant de se réveiller, le fuir, vouloir en savoir quelque chose. Au vu de ces symptômes, le sujet invente son interprétation. La division, l'impossible inscription du rapport sexuel, la castration, la manifestation de l'inconscient sont vécus comme un signe d'une impuissance, un manque de chance, un échec, le fruit du hasard, sans logique ou cohérence, la faute de l'autre. Pourquoi pas le mauvais œil, le malheur. Donc les symptômes produits et représentant en quelque sorte de la subjectivité de leur époque ne peuvent qu'être interprétés par les sujets à partir de ces discours dominants dans lesquels ils se forment. Seulement, l'interprétation donnée par le sujet à ses bévues ne met pas une fin ou ne cesse pas de revenir des symptômes. Et elle n'a pas d'incidence sur sa jouissance. Ou pour le dire plus justement, elle n'a pas la même incidence sur sa jouissance que l'interprétation de l'analyste. Car il y a des interprétations de certains sujets qui flambent la jouissance de leurs symptômes. J'ouvre une parenthèse pour soumettre une question. Si l'analyste est invité à rejoindre la subjectivité de son époque, est-ce que cela a des incidences sur sa politique? Quelle que soit l'interprétation du sujet sur ce qui lui arrive, l'inconscient, c'est lui qui guide le sujet à son insu, dans ses choix, dans ce qu'il élit ou qu'il oppose aux autres, dans ce à quoi il va adhérer ou pas, dans sa façon de répondre aux impératifs de jouissance et aux injonctions du discours de son époque, ses illusions et aux rumeurs auxquelles il est susceptible d'adhérer, comme dit joliment Jean-Jacques Auroch. Comment répond l'analyste au sujet qui, dérouté par ses symptômes, auxquels ne s'y reconnaît guère, trouve le chemin de l'analyse? Donc là, je passe à la deuxième partie qui est les symptômes au cœur de la politique de l'analyste. L'analyste donc répond en donnant une direction, celle de l'inconscient, et cet acte constitue sa politique. Il répond, et je cite Lacan, « Ce que vous faites, bien loin d'être le fait de l'ignorance, c'est toujours déterminé, déjà par quelque chose qui est savoir et que nous appelons l'inconscient. » La réponse de l'inconscient, c'est ce qu'elle implique le sans pardon et même sans circonstances atténuantes. Ce que vous faites est savoir parfaitement déterminé. J'aimerais ouvrir une parenthèse et présenter un court extrait de deux séances avec une patiente. Peu de temps après être venue consulter, une patiente parle d'une certaine place dans laquelle on la met, ses parents et puis ses copines aussi, et par la suite, elles se sont jetées. Ce sont ses propos. Cette position, elle ne l'interroge pas, mais ce n'est pas une raison pour ne pas l'interroger. « Mais qu'est-ce que vous y faites ?» je lui dis. Concrètement, elle me répond. « Comment ça se fait que vous vous retrouvez dans cette place ?» J'insiste et je lève la séance. La fois d'après, elle raconte un rêve de transfert où elle m'attribue une question adressée à elle. La question étant « Qu'est-ce que vous faites encore ?» Elle associe dans son récit ma question à la place dont il en était question la fois d'avant. Elle a toujours pensé que c'était une place naturelle. Elle a depuis qu'elle est petite. Elle ne peut pas dire que c'est un trait de caractère. Comment faire pour avoir des réponses? J'ai choisi cet extrait car on voit clairement la politique du sujet qui est guidée à son insu par son inconscient. Et puis, comment une rupture dans le discours du sujet arrive quand l'analyste relève ce qui est inconscient, quand on pointe l'inconscient. Freud, avec sa découverte, il est le premier à poser que le sujet n'est pas maître de sa maison. Avec sa conception du symptôme comme vérité du sujet, ayant un sens qui peut se déchiffrer, il inaugure une nouvelle voie et rompt définitivement avec l'idée du symptôme médical de son époque. Le symptôme sous une optique analytique ne vient plus indiquer la présence d'une maladie à éradiquer, mais il signe l'existence d'un inconscient et d'un message à déchiffrer. Pour Freud, l'essence du symptôme inclut deux questions. La première, c'est le « d'où » du symptôme. Il s'agit des impressions et des expériences vécues, venues du dehors, qui furent nécessairement un jour conscientes et qui peuvent être devenues depuis inconscientes par l'oubli. La deuxième question, c'est le « vers où » ou le « à quoi bon » du symptôme, ça concerne les intentions qu'il sert le symptôme. C'est toujours un processus endopsychique. C'est le « à quoi bon », la tendance du symptôme, qui fonde la dépendance du symptôme à l'inconscient. Freud constate que les symptômes servent toujours la même intention, à savoir la satisfaction des souhaits sexuels, ils sont les substituts de quelque chose qui a été empêché par les refoulements. Lacan va beaucoup plus loin que Freud dans la conception du symptôme, qui prend une place centrale vers la fin de son enseignement. Le symptôme vient du réel. Il est le signe de quelque chose qui ne va pas dans le réel. Ce qui ne va pas, c'est ce qui objecte à la marche synchronique des pas que le discours du maître rythmerait. Le symptôme est une fixation de jouissance qui vient à la place du réel. Il est fonction de jouissance, écrite F de X. Le X est, je cite Lacan, ce qui de l'inconscient peut se traduire par une lettre. En tant que seulement dans la lettre, l'identité de soi à soi est isolée de toute qualité. Pour mieux saisir la fonction de la lettre, je mettrai en lien une autre définition de Lacan de la même époque, selon laquelle le symptôme est la façon dont chacun jouit de l'inconscient en tant que l'inconscient le détermine. Dans ce sens, le symptôme ne serait-ce pas la façon dont chacun jouit d'un élément X de son inconscient? C'est un, qui n'est pas un nombre, peut-être n'importe quel élément de l'inconscient. Je trouve assez compliqué cette question du 1. Je la soumets à la discussion en espérant d'avancer un peu. Il peut être le phonème, le mot, la phrase, voire toute la pensée. Le 1, qui est constitué de la place d'un manque, dit Lacan, il surgit, il me semble, comme réponse au manque du rapport sexuel. À la place du « il n'y a pas de rapport sexuel parce que la jouissance de l'autre, prise comme corps, est toujours inadéquate », il y a les symptômes. Il y a de l'un, l'un symptôme. Le symptôme a pour fonction de suppléer à l'impossibilité structurelle d'inscrire les rapports sexuels. C'est un, marque de jouissance singulière pour chaque sujet. C'est l'un comme un seul, dit Lacan. C'est l'un en tant que c'est la différence. En suivant ces avancées de Lacan, la politique de l'analyste, d'orientation lacanienne, se trouve concernée, voire modifiée. L'analyste dans la direction de la cure ne s'arrête pas au seuil du sens, de la vérité menteuse et de la jouissance du fantasme, mais il interroge le réel et la jouissance. L'interprétation, moyen, je crois, par où la politique de l'analyste s'exerce par excellence, se trouve concernée et ajustée aussi, car c'est uniquement par l'équivoque que l'interprétation opère, dit Lacan. Ainsi, avec l'interprétation qui joue sur l'équivoque, l'analyste vise un effet de bascule dans l'effet de sens, vise un trou dans le sens. L'interprétation de l'analyste vise la jouissance. Michel Bousseyrou écrit à propos de ces changements, « L'interprétation n'a plus pour viser le déchiffrage du symptôme lu comme le fait Freud à travers la grille du fantasme. Il s'agirait bien plus d'opérer par l'équivoque, de façon non seulement à séparer les symptômes du sens du déchiffrage, mais aussi à le séparer de cette jouissance du chiffrage phallique des uns de l'inconscient. Cette visée de l'interprétation, à savoir séparer les symptômes de la jouissance, rejoint, il me semble, ce qui est visé à la fin d'une analyse par l'identification aux symptômes. À quoi donc s'identifie-t-on à la fin de l'analyse, se demande Lacan. Est-ce qu'on s'identifierait à son inconscient? C'est ce que je ne crois pas. Je ne le crois pas parce que l'inconscient reste l'autre, grand autre. Est-ce que ce serait ou ça ne serait pas s'identifier en prenant des garanties, une espèce de distance, s'identifier à son symptôme? Cette identification relève du s'y reconnaître. Par ce s'y reconnaître, Cyrias Kofare dit que Lacan indique, d'une certaine façon, que cette identification finale au symptôme n'est pas à concevoir comme quelque chose qui se produit en dehors de l'opération spécifique du discours analytique. Dans les symptômes, on reconnaît non seulement quelque chose de sa vérité, mais également son être de jouissance. C'est pour un par-l'être de se reconnaître dans son symptôme, c'est-à-dire dans le plus particulier de sa jouissance. Une question se pose à ce niveau, que je la soumets à la discussion. Si l'inconscient, c'est la politique, si c'est l'inconscient qui oriente le sujet, quelle politique pour le sujet après la fin d'une analyse? Est-ce qu'après la fin d'une analyse, l'inconscient continue à être la politique? Quelle politique pour un analysé, analyste ou pas, qui après une analyse, C'est pourquoi il en est empêtré de ses symptômes, comme dit Lacan. L'analyse, il me semble, permet au sujet empêtré de décider autrement, de choisir, être plus acteur de sa vie, car plus orienté, grâce à la distance prise avec son fantasme, la séparation avec le grand autre, la jouissance dévalorisée, grâce au savoir acquis, bien que partiel. Je ne vois pas comment l'inconscient cesserait d'être la politique. Pourtant, un changement est opéré avec la fin d'une analyse. Qu'est-ce que ça change à la politique? C'est une question, hein? Mais je continue avec quelques hypothèses, parce que vraiment, est-ce que le désir, plus affirmé après une analyse, là où avant il était tremblant, est-ce que les symptômes séparés de la jouissance que le fantasme valorisait en l'imputant à grand autre servent de boussole après une psychanalyse? Le symptôme borroméen, de fin d'analyse, écrit Colette Solaire, nous pour chacun, de façon singulière, jamais globale, le désir et la jouissance n'excluent nullement les liens sociaux, au contraire, il assure un amour plus digne, voire la sortie du troupeau. Est-ce que ces nouveaux nuages, du désir avec la jouissance, participent à la politique de l'inconscient, une politique de l'inconscient qui se renouvelle à l'instar du sujet nouveau de la fin de l'analyse? Est-ce que nous pourrions dire, imaginer qu'après la fin d'une analyse, le symptôme est au cœur de la politique de l'inconscient? Et là, je passe à la troisième partie qui concerne les symptômes au cœur de la politique d'une école de psychanalyse. Si la question du symptôme est au cœur de la politique de l'analyse, elle ne peut pas rester absente de la politique d'une école de psychanalyse, notamment la nôtre, qui étant du champ lacanien, le champ de jouissance, marque sans ambiguïté son orientation. Une école de psychanalyse ne peut pas rester indifférente au malaise dans la civilisation et aux politiques, entre autres du champ de la santé mentale, qui se met en place pour y répondre. À ce propos, Sidi Escofaré écrit « Ce qui se passe dans notre champ, celui dit de la santé mentale, s'il est paradigmatique, n'est cependant que le symptôme d'une attaque plus générale, d'un discours féroce contre les enclaves de tout ce qui résiste et s'oppose à la naturalisation de l'humain, et que le beau terme de clinique aujourd'hui symbolise. Une politique est à en déduire et un choix à faire. Politique de la santé, dont Marie-Josée Delvolgo et Roland Gori nous ont appris combien elle pouvait être totalitaire, ou, il continue, politique du symptôme, c'est-à-dire une politique qui ne sacrifie pas le singulier du désir et de la jouissance à l'universel facile. Le choix d'une politique du symptôme et non pas de la santé, notre école l'a fait il y a 12 ans en créant une association, la CAPSEL, Association des Centres d'Écueil Psychanalytique, du champ lacanien, et du coup, comme ça, elle a ouvert une brèche dans le marché actuel du malaise. Je reprends quelques points que j'ai déjà développés dans le mensuel. L'offre de la CAPSEL, donc de cette association et de ces centres d'accueil psychanalytique, répond à une population qui ne sait pas comment ou ne peut pas adresser sa souffrance d'emblée à un psychanalyste. Les centres d'accueil psychanalytique offrent un accueil gratuit à chaque sujet qui fait la demande et permettent la rencontre avec une écoute qui tient au désir de la différence absolue et à une réponse singulière. La CAP, donc cette association de centres d'accueil psychanalytique, étant du champ lacanien, n'est pas une association quelconque. Les centres d'accueil psychanalytique, les CAP, ne sont pas des institutions quelconques et les consultants des CAP ne sont pas des professionnels quelconques. La CAP, en s'inscrivant sous notre signifiant unitaire, le champ lacanien, est liée à notre école. Le champ lacanien, champ de jouissance, ouvre la place à l'altérité, à l'opposé du discours dominant qui tend à homogénéiser les jouissances. Il trace les perspectives d'une psychanalyse qui inclut les différences, autrement dit, non ségrégatives, non normatives, non adaptatives. Les centres d'accueil psychanalytique suivent ces fils en s'inscrivant dans cette orientation. Il ne s'agit pas du couple analysant-analyste, ce n'est pas l'objectif, mais rien n'empêche à le devenir. Ce fut le cas de la patiente dont je vous ai parlé, que j'avais rencontrée au CAPA, qui était ici à côté, à Paris. Le quatrième plan autisme, devenu stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, vient d'être lancé le 6 avril. Et son premier engagement sera de remettre la science au cœur de l'action. Proposer alors, dans le monde actuel, des lieux d'écoute qui interroge la jouissance, qui défend un réel qui n'est pas universel, n'est pas un enjeu anodin.
Merci.